s'est évadé. Voilà, il y en a un en tous les cas qui ne mourra pas à Corbin. Voilà, donc on espère qu'il va réussir son évasion.
Émission en solidarité avec les détenus et leurs proches. Rubrique, émission contre toutes les prisons. Lecture de textes de prisonnières et prisonniers. Émission contre toutes les prisons. Message des proches.
La petite cuillère.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien à la petite cuillère. Ce soir, nous allons vous parler de Corba. Nous avons parlé de Sama, qui est à Corba, et puis aussi nous allons vous parler d'Idir, qui est mort à Corba au mois de septembre. Ensuite, on va vous parler du couvre-feu, du confinement et de l'enfermement. On vous parlera de Cess, où une surveillante est en garde à vue. Il y a aussi un cluster de Covid et des masques qui n'étaient pas autorisés encore au mois de septembre. On aura une lime à ongles, on vous parlera des réseaux sociaux et on finira par l'agenda, avant d'écouter pardon, un épisode de Parloir.
Et on vous rappelle que la petite cuillère, c'est les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois de 20h à 21h sur Radio Canu. Et que si vous voulez participer, puisque l'objectif de l'émission, c'est notamment de relayer ce que vous avez à dire si vous êtes en prison, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est en prison, si vous voulez transmettre un message, un témoignage, une musique ou quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire par mail à l'adresse lapetitecuillere@riseup.net. Vous pouvez nous écrire par courrier à l'adresse Atelier d'écriture, 24 rue Sergent Blandan, 69 001 Lyon. Et vous pouvez laisser un message sur le répondeur, c'est le 07 81 35 93 71. Et donc on commence avec deux infos sur la maison d'arrêt de Corba, à côté de Lyon. Ah, c'est la première fois que je parle dans un micro et un masque en même temps, ça touche. Et voilà, donc on voulait commencer en parlant de Sama. Sama, c'est une personne qui est incarcérée depuis cette semaine à Corba. Et il se trouve que Sama, c'est une femme qui est trans, donc ça veut dire que c'est une femme qui a été assignée homme à la naissance, et donc elle a un état civil masculin. Et la conséquence, c'est qu'elle est considérée par les administrations en général, et en particulier par l'administration pénitentiaire, comme un homme. Donc elle est détenue au quartier des hommes de la maison d'arrêt. Mais donc c'est une femme, elle a l'apparence d'une femme, on dit qu'elle a un passing de femme. Et c'est une des difficultés pour les personnes trans en prison. Donc c'est pour les femmes d'être incarcérées au quartier des hommes, ou l'inverse, pour les hommes d'être incarcérés au quartier des femmes. Ce qui fait qu'on rappelle souvent à ces personnes leur état civil, on les appelle probablement monsieur pour les femmes, madame pour les hommes. On dévoie donc aux personnes qui se trouvent autour dans les couloirs ou dans la cour de promenade leur identité administrative et puis leur sexe officiel, et on les expose à toutes les violences que peuvent connaître les personnes trans ou les personnes en général dont l'apparence, l'expression de genre ne correspond pas aux normes qui s'imposent à nous en prison comme à l'extérieur. Et donc la solution de l'administration pénitentiaire dans ces situations, pour éviter que ça pose trop de problèmes, c'est de mettre les personnes en isolement. Donc on parle bien des problèmes du point de vue de l'administration, comme on parlait, enfin les problèmes seraient l'équivalent un peu des troubles à l'ordre public à l'extérieur. Le problème, c'est éviter des réactions, que ce soit des prisonniers, prisonnières ou des surveillants, des surveillantes, qu'il faudrait prendre en charge, comme des conflits, des violences, des tensions, et c'est pas vraiment pour assurer le bien-être ou la sécurité de sa mort en l'occurrence. Alors l'isolement, en principe, c'est une mesure de sécurité et pas une mesure disciplinaire. Les personnes qui sont isolées, elles bénéficient du même régime de détention que les autres, sauf le contact avec le reste de la population carcérale. Mais un peu comme quand on est en prison, on est censé être uniquement privé de liberté, mais tout le reste c'est pareil. Sauf que ça marche pas, bien sûr. Là, en isolement, il y a la télé, il y a la cantine, il y a la promenade. Mais en pratique, en pratique, pardon. Les personnes qui sont en isolement, elles sont bien seules en cellule. Elles ont une promenade, si c'est possible, dans des conditions logistiques d'horaire et d'espace. Mais elles n'ont pas d'activité, puisqu'il n'y a pas d'activité seule. Et en fait, finalement, ce n'est pas le mitard, ce n'est pas la même chose que le mitard qui est la mesure disciplinaire, mais c'est entre les deux, quoi. Et donc, Sama est isolée à l'intérieur, mais à l'extérieur, heureusement, elle a des soutiens. Elle est soutenue notamment par la communauté LGBTI. Il y a plusieurs associations qui ont envoyé un courrier cette semaine à l'administration pénitentiaire et qui rappellent les réglementations qui sont applicables pour assurer la sécurité des personnes trans incarcérées. Et il y a trois points qui sont mentionnés. Il y a la Convention européenne des droits de l'homme avec l'article 2, le droit à la vie, et l'article 3, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme avec un arrêt de 2008 qui dit que les détenus les plus vulnérables doivent être placés dans des infrastructures qui permettent de les isoler des auteurs des atteintes. Et enfin, il y a un avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 30 juin 2010 qui s'appelle « Avis relatif à la prise en charge des personnes transsexuelles incarcérées » avec notamment deux paragraphes. Le 11e, l'affectation doit se faire au mieux des intérêts de la personne et des impératifs de gestion des établissements pénitentiaires. C'est pourquoi l'affectation dans un établissement ou un quartier correspondant à la nouvelle identité sexuelle de la personne concernée doit intervenir au plus tôt, une fois l'irréversibilité du processus de conversion sexuelle établie, donc pendant la transition, et au plus tard, au moment du changement d'état civil. Au plus tard. Et le 12e paragraphe, c'est « En tout état de cause, la priorité doit être donnée dans le processus judiciaire de modification de l'état civil aux personnes détenues, compte tenu des implications de cette modification dans les conditions de détention. » Et enfin, donc il y a des camarades qui sont en lien avec Sama, par l'intermédiaire de son avocate, et qui ont lancé cette semaine une cagnotte sur Internet pour récolter de l'argent et pour lui envoyer des mandats pour qu'elle puisse continuer. Mais deux fois de suite, la cagnotte a été supprimée sur le site qui l'hébergeait. En fait, vous vous souvenez, peut-être c'était, il me semble, l'an dernier ou il y a deux ans, il y avait dans une manif de gilets jaunes, un manifestant qui s'avérait être boxeur par ailleurs, qui avait frappé des gendarmes. Il avait été mis en garde à vue et il y avait des cagnottes qui avaient été lancées pour le soutenir, qui avaient récolté, enfin une cagnotte qui avait rencontré plus de 100 000 euros. Et puis elle avait été annulée suite à la réaction de la gendarmerie. Et donc apparemment depuis, on ne peut plus soutenir les personnes qui sont en prison par des cagnottes sur Internet. Mais c'est quand même à surveiller si vous voulez soutenir Sama, puisque les camarades arriveront peut-être à créer une nouvelle cagnotte dans les jours qui viennent. Et puis on voulait toujours parler à Corba de la situation de Idir.
Oui, alors du coup, on voulait évoquer Idir qui est mort le 9 septembre à Corba. Et la famille se bat pour connaître la vérité sur ce qui s'est passé ce 9 septembre. Parce que l'administration pénitentiaire a prévenu la famille en disant que Idir s'était suicidé. Mais la famille conteste cette version et aimerait savoir ce qui s'est réellement passé. Il y a eu déjà deux émissions sur l'envolée que vous pouvez réécouter, qui datent du 2 et du 9 octobre, où il y a la tante Didier et son frère et bon, en tout cas il y a des membres de la famille Didier qui témoignent sur ce qui s'est passé. Puis il y a aussi des témoignages de témoins qui racontent ce qui s'est passé dans la tôle à ce moment-là. Moi, je vais vous lire le message de la mère d'Idir qu'elle a posté le 8 octobre sur Facebook. Et puis après, je vous lirai du coup un des témoignages qui est sorti aussi de la prison de Corba qui date aussi du 8 octobre. Donc c'est la mère d'Idir. Je vous écris ce message aujourd'hui pour la première fois. Je suis la maman du défunt Idir Médérès. Je voudrais faire éclater la vérité sur sa mort. Mon défunt fils de 22 ans, qui a perdu la vie à la maison d'arrêt de Corba d'une cause non naturelle, le mercredi 9 septembre 2020 à 17h30. Les médias et la justice veulent nous cacher la véritable cause. Malgré l'autopsie faite, le milieu hospitalier ne veut pas nous donner les résultats des causes et des faits de la mort de mon défunt fils. À ce jour, nous essayons de savoir la véritable histoire. Ayant fait nos recherches de notre côté, et grâce aux réseaux sociaux, nous avons pu avoir de nombreux témoignages et preuves que mon défunt fils ne s'est pas donné la mort par pendaison. Et nous pouvons vous prouver le contraire en demandant aux autorités qu'ils protègent tous nos témoins. Comme vous avez pu le constater sur la vidéo d'un témoin qui a fait le tour des réseaux sociaux, vous avez donc pu avoir une part de vérité sur sa mort. De plus, mon fils buvait l'eau des toilettes lorsqu'il avait soif. Est-ce humain de faire vivre une telle chose à quelqu'un ? Nous recevons des tas de témoignages d'anciens détenus qui tombent des nues de la situation et qui eux-mêmes sont traumatisés par ces situations. Mon fils n'avait aucun problème avec qui que ce soit. C'était un garçon qui avait la tête sur les épaules et qui avait beaucoup de projets de vie, car ce n'était pas un voyou. Je ne dis pas cela car c'est mon fils dont je parle. Mais tous ses proches vous le diront, c'était un bon garçon. Il avait juste conduit sans permis et fait une course-poursuite. Et même s'il avait été un grand délinquant, il ne méritait pas ça. Les seules personnes avec qui il a eu des problèmes n'étaient que la brigadière du mitard, le jour de son décès, celle qu'on appelle Karima. Et c'est d'ailleurs elle qui a donné l'ordre de lui couper l'eau et l'électricité, à lui ainsi qu'à Y, qui n'était autre que son voisin de cellule du mitard. Aujourd'hui, ils ont détruit une famille entière, et surtout moi, mère de famille qui ne trouve plus le sommeil et qui a un mal fou à se relever. Si vous avez un minimum de compassion, je pense que vous ne voudriez pas que cela se répète perpétuellement. Nous vous faisions un appel à l'aide et souhaitons que justice soit faite. Aujourd'hui, les médias nous font croire que dans les maisons d'arrêt, les gardiens et brigadiers sont corrects. Mais tout le monde sait que cet endroit est corrompu, malgré les efforts faits par l'État. Ce milieu est rempli de haine. Trouvez-vous qu'être interdit d'eau et d'électricité pendant plusieurs jours est une manière de traiter un homme ? Nous avons découvert qu'il a été malmené et maltraité par les soi-disant forces de l'ordre, si je peux me le permettre. Je suis la mère du défunt Idir Médérès. Avouez la vérité, car les personnes incarcérées ne sont pas un simple numéro d'écrou ou des animaux. Ce sont des êtres humains. Après tout, ils ont une famille derrière qui souffre énormément. Et je vais vous lire du coup le témoignage qui donc se réécoute aussi dans l'émission du 9 octobre à l'Envolée. Donc c'est le témoignage d'une personne qui est à Corba et qui a réussi à laisser ce message par une vidéo. Pour vous expliquer l'histoire d'Idir, il a fini au mitard. Il s'est embrouillé avec les SS et la brigadière. Et à la fin, ils lui ont fait une clé de bras. Ils l'ont frappé et lui ont mis le genou sur le cou. Il ne l'a pas supporté et il est mort. Et ils l'ont pendu à la fin pour cacher la vérité. Et voilà, personne ne dit rien, tout le monde s'en bat. Je suis en direct de Corba, là. On est le 6 octobre 2020. Et voilà ce qui s'est passé pour le petit Idir. Ça s'est passé au mitard. Il était avec Y, il est témoin, lui. Il a voulu en parler à tout le monde. Tout le monde essaie de le cacher. Et là, il est au mitard. Il a pris plusieurs peines pour une brigadière. En fait, ils étaient là-bas. Ils faisaient un peu de bordel. Voilà, ils criaient à la fenêtre, ils tapaient dans les portes. Et ils sont venus. Ils s'en sont pris d'abord à Y. Ils ont coupé l'eau et l'électricité aux deux. Ben, voilà. Au bout d'un moment, quand on a soif et qu'on est enfermé quelque part, et qu'on n'a plus d'électricité, plus d'eau, ben, ils ont été obligés de boire dans les toilettes. Et ils les ont insultés, tout ça, tout ça. Et ils sont rentrés dans la cellotte de Y. Ils l'ont défoncé. Et ils leur ont fait leur truc de genou. Et juste après, le petit jeune Idir, il l'appelait pour lui demander l'heure de la prière de la salate. C'est pour dire que c'était pas quelqu'un de suicidaire, c'est sûr à 100%. Et juste après, il les a entendus aller dans leur cellotte et ils l'ont frappé. Sauf qu'il a plus rien entendu après. Il l'a appelé, il répondait plus. Ils l'ont tué et là ils sont en train de cacher les choses à tout le monde. Personne ne dit rien ici. Là quand il est sorti au mitard, il en a parlé à tout le monde ici. Là faut faire passer le message. Inch'Allah, comme nous on est punis, bah eux aussi ils payent. Du coup c'est ça, c'est que le témoin, le Y, du coup celui qui était au mitard avec Idir, il s'est pris en fait 90 jours de mitard. Et comme c'est pas possible de faire plus de 30 jours d'affilée, de mitard. Du coup, il a pu, en fait, quand il est sorti de ses 30 premiers jours, il a pu raconter un peu ce qu'il a vu et ce dont il a été témoin. Et puis, du coup, la famille a aussi peur un peu de ce qui peut se passer pour cette personne. Si vous voulez avoir des informations sur ce qui se passe, il y a une page Facebook qui s'appelle Association Idir Espoir et Solidarité. Il y a eu une marche qui s'est passée le 11 octobre, qui s'est passée à Corba, depuis le marché de Gros jusque devant la tôle, pour demander justice et vérité, pour montrer qu'en fait la famille elle lâchera pas et qu'elle souhaite savoir ce qui se passe. Et on vous tiendra aussi au courant de s'il y a d'autres événements et si on a d'autres informations sur cette histoire.
Et c'est possible de réécouter le témoignage et les interviews de plusieurs membres de la famille d'Idir qui racontent, en tout cas peut-être pas ce qui s'est passé, mais ce qu'ils ont su de ce qui s'est passé dans les dernières émissions de l'Envolée. Tu l'as dit, c'est sur l'envolée.net, c'est les deux dernières émissions. Et on écoute un petit morceau de musique et on revient après. C'est toujours la petite cuillère sur Radio Canu. Et on continue après le dossier Corba. On continue avec un dossier CES. Ça, c'est la maison d'arrêt qui est à côté de Toulouse. Et il y a plusieurs infos, notamment une surveillante qui est en garde à vue actuellement parce que, suite à la plainte qui a été déposée par deux détenus de la maison d'arrêt, une plainte pour coups et blessures suite à des faits qui sont datés de la fin du mois d'août. Ils fumaient dans un endroit interdit. Et donc, elle a reconnu qu'elle est intervenue auprès d'eux et elle dit qu'elle a donné une gifle à l'un parce qu'elle l'aurait considéré comme menaçant. Et les deux détenus, ils parlent de faits violents et gratuits, comme si donner une gifle pour menace était ni violent ni gratuit. Et donc, en tout cas, eux, ce qu'ils disent, c'est que c'était pas juste une gifle, c'était qu'il y en a un qui aurait été roué de coups et l'autre tiré par les cheveux. Et donc, ils ont fait l'objet d'une enquête en interne et ensuite d'une enquête préliminaire menée par les gendarmes, et le parquet a décidé de saisir le tribunal correctionnel, et la surveillante devra répondre de violence par personne dépositaire de l'autorité publique, et elle sera jugée par le tribunal correctionnel de Toulouse en mai prochain. On en parle parce que c'est pas souvent. On verra ce que ça donne.
Et puis, il y a eu début septembre question qui a été portée au tribunal administratif, qui a été portée par des personnes incarcérées, soutenues par le syndicat des avocats de France. Et donc, c'était pour demander en fait à rendre le port du masque accessible aux détenus quand il y avait des déplacements dans des lieux collectifs, et puis d'organiser aussi des campagnes de dépistage du coronavirus. Le tribunal leur a donné raison. Et même si l'épidémie n'est pas du tout finie, le ministère de la Justice, lui, il a préféré faire appel de la décision. Alors, dans cette décision, le tribunal il imposait à la direction de la prison d'organiser donc des campagnes de dépistage parmi les personnes incarcérées. C'était sur la base du volontariat et dans le respect du secret médical. Parce que pour le juge, l'exposition au cours d'une incarcération dans cette maison d'arrêt, sans moyen de s'en protéger, s'apparenterait à un traitement inhumain et dégradant. Et craignant peut-être l'effet boule de neige de cette décision, le ministère de la Justice a préféré faire appel plutôt que de faire attention aux personnes qui sont incarcérées. Donc c'est un recours un peu paradoxal et qui est en total décalage avec l'urgence sanitaire, alors qu'on n'arrête pas de parler d'une deuxième vague de contamination et que les masques sont devenus obligatoires dans les lieux publics et que les mesures de prévention se durcissent dans plusieurs villes. Pour des raisons de bon ordre et de sécurité, bon ordre entre guillemets, l'AP considère en effet que les personnes détenues doivent garder le visage découvert. Et les différentes notes publiées par la direction de l'AP ont prévu quelques exceptions. En prison, du coup, le port du masque, il est imposé lors des visites au parloir, pendant les transferts et les extractions, ou en cas de contact prolongé avec des intervenants. Et la note du 2 juin 2020 a également rendu possible le port permanent d'un masque hors de la cellule pour les personnes vulnérables. Et ça, c'est sur avis de l'unité sanitaire. Et pour toutes les autres situations, y compris les lieux collectifs clos, tels que les salles d'attente, les cours de promenade, les postes de travail, les salles d'activité et celles utilisées pour les visioconférences, le masque, il n'est ni autorisé ni accessible, alors qu'il est obligatoire pour le personnel pénitentiaire et les intervenants qui entrent et sortent quotidiennement des prisons. Et bon, bah ça, c'est quand même plus ou moins bien appliqué d'une prison à l'autre. Et 6 mois après le début de la crise sanitaire, des masques seraient désormais fournis aux personnes employées au service général, dans les hôteliers ou lors des consultations médicales à l'unité sanitaire dans la plupart des prisons. Mais des personnes incarcérées à Fleury-Mérogis, à Joux-la-Ville, Lille ou encore Toul signalent que dans leur établissement, ils auraient refusé de porter un masque en cellule et en cours de promenade, en dépit de l'impossibilité de respecter les règles de distanciation sociale dans ces circonstances. Et ces différences, elles s'expliquent par une importante marge de manœuvre laissée par la direction de l'AP au pouvoir locaux. Les consignes de la présente instruction pourront être adaptées globalement et localement en fonction de la situation épidémique et des capacités de protection sanitaire de chaque établissement ou service. En particulier, les chefs de service pourront prendre des mesures plus restrictives sur l'avis des directeurs interrégionaux ou la recommandation des agences régionales de santé, comme ce qui est marqué dans le 2 juillet, dans la note pardon, du 2 juillet 2020. En mai, déjà, il y avait l'OIP avec Médecins du Monde et puis une association des professionnels de santé exerçant en prison qui avait appelé une égalité d'accès aux dispositifs de prévention qui était prévu et recommandé à l'extérieur pour que ce qui se passe dehors soit la même chose à l'intérieur. Et l'enjeu, il est toujours d'actualité. Et un avocat, du coup, qui dit « Nous demandons à ce que la décision du juge de Toulouse soit respectée et ses principes mis en œuvre dans toutes les maisons d'arrêt de France. » Les associations de défense des droits et de médecins insistent aussi sur le fait que l'accès aux masques doit être possible pour tous, quel que soit leur niveau de ressources. Difficile, en effet, de faire reposer la responsabilité de l'achat de masques sur les personnes détenues, privées de revenus pour la plupart, et confrontées à une précarité accrue depuis le début de la crise.
Et donc, ça c'était jusqu'à il y a quelques jours, l'administration pénitentiaire résistait au fait que les détenus puissent porter les masques à la maison d'arrêt de Cesse, et puis... Vendredi dernier, il y a une semaine, 5 personnes ont été dépistées positives au Covid dans cette maison d'arrêt. 3 agents, donc c'est des surveillants, je pense, et 2 détenus. Et bon, pour l'ARS, l'Agence régionale de santé, un cluster, c'est à partir de 3 personnes dans les centres d'hébergement, par exemple. Donc là, il y en a 5, c'est bon, c'est un cluster. Et puis parmi les 2 détenus qui ont été détectés positifs, il y en a un qui est affecté à la distribution des repas avec les autres détenus. Donc ça veut dire que lui, pour le coup, je crois qu'il avait le droit d'avoir un masque, mais ça veut dire aussi qu'il passait dans toutes les cellules. C'est pas de peau. Enfin, c'est pas de peau en termes de risque de contamination, quoi. C'était peut-être celui qui voit le plus de monde. Donc, depuis le début de la semaine, l'ARS a organisé avec l'administration pénitentiaire une campagne de dépistage, et entre mardi et ce soir, il y aurait 600 surveillants et détenus qui devraient être testés, surtout des surveillants. Parce que l'administration ne fait pas du dépistage de la population pénale une priorité, considère que les détenus sont systématiquement testés à leur arrivée en détention, et donc la priorité pour le dépistage, ça doit être les personnels, donc les surveillants, qui effectuent des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis, l'administration a aussi décidé de généraliser le port du masque dans l'établissement, et ce coup-ci, c'est aussi pour les détenus, grâce au cluster. Les activités collectives sont supprimées, donc les ateliers, les cours, la musculation, en tout cas en salle, quoi, tout ce qui se passe en salle, autre que les cellules, c'est suspendu. La jauge maximale, c'est 15 détenus en extérieur, donc dans les cours de promenade. Pour les parloirs, il y a des mesures de sécurité sanitaire qui consistent à installer des plaques de plexiglas entre chaque box. Et aussi les mouvements de détenus vers l'intérieur, enfin autant vers l'intérieur que vers l'extérieur de la prison, sont suspendus depuis mardi. Les détenus qui entrent sont, ils n'entrent plus en tout cas en ce moment à la maison d'arrêt de Sais, ils sont déviés soit vers la maison d'arrêt de Montauban pour les comparutions immédiates, soit vers la maison d'arrêt de Béziers pour les détenus qui sont mis sous mandat de dépôt. Et enfin les extractions, donc les sorties des détenus, de la maison d'arrêt pour une audience chez le juge, ben là pour l'instant il serait question de les remplacer par des visioconférences. Donc il a quand même fallu attendre qu'il y ait au moins 5 personnes détectées, mais potentiellement il pourrait en avoir beaucoup plus, pour qu'il y ait des mesures de prévention qui soient mises en place à l'intérieur. C'est intéressant. Et ça tombe à peu près en même temps que l'annonce pour l'extérieur du couvre-feu. Et c'était l'occasion de reparler de... Enfin, en tout cas, j'imagine ça peut faire... le couvre-feu, ça va faire un peu comme le confinement, une nouvelle expérience pour l'extérieur, pour nous à l'extérieur des prisons, une expérience de ce que c'est que d'être enfermé, de se sentir enfermé. Et en même temps, c'est l'occasion de se calmer tout de suite sur les parallèles qu'on peut faire avec ce que c'est que d'être en tôle. Et pour ça, on voulait relire un extrait d'un article de Gwenola Ricordo, dont on avait déjà parlé, Gwenola Ricordo en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission. C'est une chercheuse, une militante pour l'abolition du système pénal. Elle avait publié un article en mai dernier qui s'appelle « Confinement et prison, une comparaison qui masque les réalités de la détention ». C'est sur Internet, sur le site The Conversation, la conversation. Et je vais vous lire juste un extrait de la conclusion. Les mesures actuelles de confinement sont inédites par leur durée et le nombre de personnes qui y sont soumises. Ces effets psychosociaux seront certainement étudiés. L'expérience de réclusion, le confinement et l'incarcération ont forcément des traits communs. Pour autant, la comparaison est hasardeuse au regard de l'extrême sévérité de certains régimes de détention. En fait, l'expérience du confinement se rapproche plutôt de celle de l'assignation en résidence, même si la nature de l'expérience est profondément influencée par sa durée. Kamel Daoudi, le plus ancien assigné à résidence de France, est l'objet d'une telle mesure depuis 12 ans. L'expérience de la réclusion diffère selon qu'elle est subie, contrainte, consentie ou volontaire, comme l'isolement diffère de la solitude choisie. Si aujourd'hui des personnes confinées accèdent à travers l'expérience de la réclusion à la compréhension de certains aspects de la peine d'incarcération, ou de certaines situations d'handicap par exemple, la comparaison entre les deux, lorsqu'elle est formulée par les plus privilégiés de ceux et celles qui sont confinés, heurte de nombreuses sensibilités, dont celles de personnes qui ont été incarcérées. En effet, dans certaines bouches, la comparaison du confinement à l'incarcération semble s'accompagner d'un aveuglement aux profondes inégalités parmi les situations de confinement et qui résultent des ressources financières ou matérielles ou sociales qui permettent ou non d'avoir accès à un logement, voire à une résidence secondaire, d'imprimer une attestation de déplacement, de se faire livrer des courses à domicile, etc. Alors, la sociologie de la prison nous apprend justement comment la classe sociale, la race, le genre, mais aussi l'âge et l'orientation sexuelle, notamment, façonnent les expériences de l'incarcération.
Eh bien, on peut peut-être écouter une petite musique, si je te prends pas trop au dépourvu dans la technique.
Allons-y. C'était, vous comprendrez par la suite, c'est Bernard Lavilliers.
Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché. T'es comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale tombant sur les dalles et se lit glacé. Aller, venir, soleil et sourire sont de l'autre côté. ses murs, ses grillages, ses portes et ses cages, ses couloirs, ses clés. Cette solitude, si dure et si rude, qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune, sur le sol allume, visage oublié. De celui que t'aimes, qui tire sur sa chaîne, comme un loup blessé. Betty, faut pas craquer. Betty, faut pas plonger. Je sais, ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Pas pleurer, Betty, faut pas trembler. Je sais, tu vas rester là. T'aimerais plus te réveiller, plus jamais rêver. Je te dis je t'aime dans ce court poème, dans ce long baiser. Tu es ma frangine, juste une féminine que j'avais rimée. Je te donne ma force, mes mots et mes notes pour te réchauffer. Je hais la morale, les prisons centrales, les maisons d'arrêt. Je n'ai pas sommeil, je fume et je veille, et j'ai composé une chanson d'amour, une chanson secours pour l'autre côté, pour ceux que l'on jette dans les oubliettes, dans l'obscurité, pendant que les gens dorment au fond du conforme sans se réveiller.
Leur force, nous faire croire que leurs murs sont infranchissables. Notre force, montrer que chaque jour, des personnes arrivent à les contourner, les franchir et détruire un petit peu. La vie m'a honte, une rubrique sur toutes les évasions.
Et voilà, Bernard Lavillier, c'était le petit clin d'œil pour la lime à ongles de ce soir. Pascal Attalo, en fin de semaine dernière, si je ne me trompe pas sur les dates, il y a eu une activité randonnée avec quelques détenus et l'un d'eux a choisi de ne pas rentrer. A priori, il n'a toujours pas été retrouvé, alors bonne balade à lui.
Et c'était l'occasion de vous signaler, en fait, cette info, on l'a trouvée sur un groupe Facebook qui s'appelle Info Prison sur Saint-Étienne. Je vous lis la présentation. C'est des échanges d'informations pratiques et d'expériences pour se soutenir face à l'enfermement et essayer de s'entraider dans nos différentes galères. Et donc, c'est un groupe public auquel on peut adhérer ou qu'on peut consulter. En fait, on s'en fout, il y a des informations dessus. Sur la Talaudière et sur les prisons de la région. Il est associé aussi à un groupe qui est privé, celui-là, qui s'appelle Entraide pour proches de détenus de la prison de la Talaudière, auquel vous pouvez candidater, comme on dit. Enfin, en tout cas, il faut demander, si on est concerné, il faut demander la participation, c'est un groupe privé. Et ça nous est pensé aussi à un autre groupe qui est celui-là sur Snapchat, qui s'appelle Femmes de détenus et qui est mentionné notamment dans l'émission L'Envolée d'il y a deux semaines, qui, pareil, qui recense beaucoup d'informations et qui met en lien des personnes à l'intérieur et à l'extérieur. Et celui-là, je crois que c'est au niveau national de toute la France, il me semble.
On continue avec l'agenda. Je ne crois pas qu'on ait de petits jingles agenda.
Ah non, oui.
Non,
alors,
on
maintenant,
l'a pas.
L'agenda.
c'est pour vous parler de demain. Il y aura un rendez-vous, enfin un rassemblement devant la PAF, les locaux du coup de la police aux frontières, qui se trouve au 92 rue de la Pardieu. C'est Lyon 3e, c'est à côté de la place Bahadourian. Et c'est en écho à la manifestation contre le centre de rétention de Vincennes et à la marche des solidarités sur l'Elysée qui arrivera demain à Paris. Alors il y a un petit... il précise dans le tract que le rassemblement n'est pas déclaré en préfecture. Donc dans la description du rassemblement, les centres de rétention, les CRA, sont des prisons. Bien qu'ils ne soient pas désignés comme tels officiellement, ce sont des lieux d'enfermement où les violences policières, les menaces et les humiliations sont quotidiennes. L'État y enferme les personnes qu'il considère comme en situation irrégulière sur le territoire français. Les prisonniers et prisonnières y sont détenus jusqu'à 90 jours, au cours desquels ils et elles peuvent à tout moment être déportés, incarcérés en maison d'arrêt, notamment si ils et elles s'opposent à leurs expulsions. Ils sont aussi parfois relâchés tout en restant sous la menace constante d'une nouvelle arrestation. En 2019, plus de 53 000 personnes ont été enfermées dans les 24 centres de rétention de France métropolitaine et en Outre-mer. Ces dernières années, des centaines de nouvelles places ont été créées et le taux d'occupation des CRA ont continué d'augmenter. Le CRA de Lyon se trouve à Colombier, Saunieu, juste à côté de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Une cinquantaine de personnes y sont actuellement incarcérées. Comme tous les CRA, il est géré par les membres de la police aux frontières, des flics matons qui y infligent toutes sortes de violences aux prisonniers et prisonnières. Ces derniers temps, de multiples tabassages ont eu lieu, dont certains sont relayés par la presse. Principal outil d'une politique raciste de tri des étrangers et étrangères, la PAF constitue le bras armé de l'État dans son entreprise de criminalisation, de persécution et d'enfermement des personnes sans papier. Elle réalise un grand nombre des interpellations aux frontières, dans les lieux de transit, comme les gares ou les aéroports, devant les écoles, à l'intérieur des préfectures. Actrice de la répression à tous les maillons de la chaîne, la PAF est également la gestionnaire des centres de rétention. Le vendredi 16 octobre, dans le cadre de la marche des solidarités qui convergera à l'Elysée le 17 octobre, une manifestation est organisée au CRA de Vincennes, à Paris, pour exiger la fin des expulsions et la fermeture des CRA. À Toulouse, Marseille, 7, de multiples rassemblements devant les centres de rétention ont eu lieu avec le même mot d'ordre. À Lyon comme partout, exigeons la fermeture des centres de rétention, la fin des expulsions et la liberté pour tous et toutes les sans-papiers. Puis on vous rappelle aussi qu'il y a un blog qui s'appelle crametoncra.noblog.org, si je ne me trompe pas, qui recense pas mal de témoignages de personnes qui se trouvent dans les CRA et qui permettent d'avoir une idée de ce qui se passe et de ce que les personnes peuvent vivre à l'intérieur.
Et on approche de la fin, on termine avec un nouvel épisode de la série, de la chronique Parloir. Parloir, c'est des courriers, une histoire des prisons et des liens entre les personnes qui sont à l'intérieur et à l'extérieur à partir d'un courrier et d'une mise en son. Et celui-là, il s'appelle Hegazi.
The victims have been dealing with physical abuse, beatings.
رفعه المثليين
يا الله.
وأثبتت جميع الثورات في بلداننا. الحقيقة مش بس في بلداننا هو في المطلق في العالم أي ثورة إن هؤلاء ديت اللي هو النظام القديم إنه بيخوض مع الثورة معركة وجود بالأساس.
It is in general not only in the Arab world or in the part of our areas but in general all over the world it is life and death fight between the old regime and the people who want.
Un texte de Sarah Hegazi, militante queer marxiste égyptienne, arrêtée, torturée et emprisonnée pendant 3 mois après avoir brandi le drapeau arc-en-ciel durant le concert de Mashrou Laila au Caire en 2017.
Unfortunately, the Egyptian jails or prisons, there are so many different people are still behind the bars.
Elle s'exile à Toronto, au Canada, en 2018, où elle s'est suicidée en juin dernier. Parloir lui rend hommage.
Les islamistes et l'État rivalisent d'extrémisme, d'ignorance et de haine quand ils font dans la violence et dans le mal infligé. Les islamistes punissent de mort ceux qui diffèrent d'eux et le régime en place punit ceux qui diffèrent de lui par la prison. Le régime utilise ses outils, comme les médias et les mosquées, pour dire à la société égyptienne comprise comme religieuse par nature. Nous protégeons aussi la religion et la moralité sociale pour que les islamistes n'aient pas à se confronter à nous.
إذا لمستك بحلي وترأسك أربع لي شوي في جحيم تحت جلدي وانتيدي.
Alors que je me faisais arrêter chez moi, devant ma famille, un officier m'a interrogé sur ma religion, sur la raison pour laquelle j'avais enlevé mon voile et si j'étais ou non encore vierge. L'officier m'a bandé les yeux dans la voiture qui m'emmena dans un lieu que je ne pouvais pas connaître. J'ai été conduite dans un escalier sans savoir où celui-ci m'amènerait. Seulement la voix d'un homme disant « Emmène-la à Al-Bacha » et une odeur dégoûtante et le son des personnes qui gémissaient de douleur.
J'étais assise sur une chaise, les mains attachées et un morceau de tissu dans ma bouche pour une raison que je ne connaissais pas. Je ne pouvais voir personne et personne ne me parlait. Un peu plus tard, mon corps a convulsé et je suis tombée inconsciente pour une durée inconnue. C'était l'électricité. J'étais torturée à l'électricité. Ils menaçaient de faire du mal à ma mère si je parlais de quoi que ce soit à quiconque. Ma mère qui est morte plus tard, après que je sois partie. M'électrocuter n'était pas suffisant. Les hommes du commissariat de Sayena Zainab ont aussi incité les femmes qui étaient détenues à m'agresser sexuellement, physiquement et verbalement. La torture ne s'arrêta pas là. Elle a continué à la prison pour femmes de Canater où j'étais détenue dans un confinement solitaire pendant des jours et des jours avant qu'on me déplace dans une cellule avec 2 autres femmes avec lesquelles je n'avais pas le droit de parler. On m'a empêchée de marcher à la lumière du jour durant l'entièreté de mon séjour en prison. J'ai perdu la capacité d'établir un contact visuel avec les gens.
L'interrogatoire qui prit place à la sécurité d'État était une démonstration d'ignorance. Mon interrogateur me demanda de fournir la preuve que l'Organisation mondiale de la santé ne considérait pas l'homosexualité comme une maladie. Mon avocat Mohamed Fouad a contacté l'OMS qui produisit un mémo indiquant que l'homosexualité n'était pas une maladie. Les questions de mon interrogateur étaient naïves. Il me demanda si le communisme était la même chose que l'homosexualité. Il me demanda sarcastiquement ce qui retenait les homosexuels d'avoir des relations sexuelles avec des enfants ou des animaux. Il ne savait pas que les relations sexuelles avec des enfants étaient un crime et que les relations sexuelles avec les animaux étaient aussi un crime. Ce n'est pas surprenant que sa pensée était si limitée. Il pensait probablement que le monde conspirait contre l'Égypte et que l'homosexualité était une religion dans laquelle nous invitions les gens. Il n'avait aucune autre source de pensée que sa famille, des hommes religieux, l'école et les médias.
Well, when it comes to those who are prosecuted, those who are, I mean, they have their own categories of man, woman, Sunni, and...
Straight or heterosexual?
J'ai commencé à avoir peur de tout le monde. Même après avoir été relâchée, j'avais toujours peur de tout le monde, de ma famille et de mes amis, de la rue. La peur a pris le dessus. J'ai été frappée par une grave dépression et par un trouble de stress post-traumatique et j'ai développé une grave anxiété ainsi que des crises de panique. Tout ceci a été traité par électrochoc qui cause des problèmes de mémoire. J'ai dû ensuite quitter mon pays par peur d'être de nouveau arrêtée. Alors en exil, j'ai perdu ma mère. C'était la violence que m'avait fait subir l'État avec la bénédiction d'une société intrinsèquement religieuse. Il n'y a aucune différence entre un extrémiste religieux barbu qui veut vous tuer parce qu'il croit être supérieur aux yeux de son Dieu et qui est ainsi chargé de tuer toute personne qui diffère de lui et un homme bien habillé avec un téléphone dernier cri et une belle voiture qui se croit supérieur aux yeux de son Dieu et est ainsi chargé de torturer et d'emprisonner toute personne qui est différente.
They ran the gamut from snide comments, threats of violence, death threats.
La société a applaudi le régime quand elle m'a arrêté avec Ahmed Allah, le jeune homme qui a tout perdu pour avoir brandi le drapeau arc-en-ciel. Quiconque diffère, quiconque n'est pas un mâle hétérosexuel musulman sunnite qui soutient le régime en place est considéré comme une menace.
And it was impossible to know what threats were real. Which were credible, but they were so constant and so extreme.
Les frères musulmans, les salafistes et les extrémistes ont finalement trouvé un arrangement avec le pouvoir en place. Ils ont convenu de nous. Ils ont convenu de la violence, de la haine, du préjudice et de la persécution. Peut-être sont-ils deux côtés d'une même pièce. Un an après le concert de Mashrou Leila et après que les musiciens ont été interdits de retour en Égypte, après une campagne sécuritaire d'un an contre les homosexuels, un an après avoir annoncé ma différence, oui, je suis homosexuelle, je n'ai pas oublié mes ennemis. Je n'ai pas oublié l'injustice qui a creusé un trou noir dans mon âme et l'a laissé en sang. Un trou que les docteurs n'ont pas été capables de guérir à ce jour.
Pardon. Oui, du coup, l'émission se termine. Mais avant qu'on rentre l'antenne, je voulais juste du coup vous rappeler la page Facebook de l'association IDIR Espoir et Solidarité pour vous tenir au courant de ce qui se passe pour la famille qui cherche à connaître la vérité sur ce qui s'est passé sur la mort d'IDIR.
Et puis pour pouvoir les soutenir quand il y aura des événements publics, parce qu'il y a toujours besoin d'avoir du monde et de ne pas se sentir seul face à l'administration pénitentiaire et face à la justice.
Et on vous rappelle que si jamais vous voulez transmettre des messages, des musiques, des informations, des témoignages, ce que vous voulez depuis l'intérieur des prisons ou depuis l'extérieur, mais si vous voulez transmettre des messages, notamment vers des personnes qui seraient à l'intérieur, vous pouvez nous écrire par mail à l'adresse lapetitecuillère en un seul mot, @riseup.net, par courrier à l'adresse postale Atelier d'écriture, 24 rue Sergent Blandan, 69001 Lyon, ou sur le répondeur au 07 81 35 93 71.
Et puis, c'est le couvre-feu, mais a priori, on devrait quand même réussir à continuer de faire notre émission, même si on sera peut-être plus en direct des locaux de Radio-Canada.
Et on termine avec le morceau de Mashfouleila, qu'on entendait dans le parloir d'avant, hommage à Sarah Egazi. Et bah dans 2 semaines ou 3 semaines.
3 semaines.
3 semaines. Salut.
Salut.
لوحدي